France Culture.
La déclaration d'amour de Louis He à John Howe. De Nicolas Barry.
Ok. Allez. Go. Ah, attends. Je trouve pas mon papier. Je l'avais mis dans ma poche et... Attends. Je trouve pas. Ah, merde. Ok, bah, je vais faire sans. Je vais essayer de faire court. Alors, tu le sais, ça, que je te trouve très beau. Je te l'ai déjà dit, ça. Souvent que ton visage est ce que je préfère voir plus que tout. Ça, oui, c'est bon, ok. Et que depuis la première fois, tout de suite, je me suis dit, oh putain, ça, c'est un beau visage. Je me suis dit ça comme ça. Oh merde. Oh putain, je savais pas qu'on pouvait avoir une peau comme ça. En te voyant de loin, je me disais, je vais pas m'en sortir d'un visage comme ça. Et à mesure que tu avançais, j'avais envie d'hurler. Que tu t'arrêtes là où tu étais, tu marchais, et je me disais, s'il fait encore un pas dans ma direction, je hurle. Je me disais, je vais mourir, il va m'écraser. Avec toute cette beauté, je vais me faire écraser. Je savais pas à ce moment-là que la beauté, c'était quelque chose de matériel comme la vaisselle ou comme les camions de chantier, enfin comme les arbres, que la beauté c'était un truc qu'on pouvait toucher avec les doigts et qui pouvait me passer dessus lourdement. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc du marbre? On dirait du marbre, on dirait qu'il est vivant, on dirait qu'il respire, mais c'est pas possible, je me disais. Il peut pas être aussi beau et respirer, on doit étouffer avec un visage comme ça. Et je me suis dit, quand on approche du cratère d'un volcan et qu'on observe de la lave en fusion, on se tient pas trop près, pas trop près, pas trop près, de peur que mon visage, à moi, fonde comme de la cire et coule sur mon corps. Je me disais, putain, merde, ok, merde, putain. Et j'ai touché mon visage à moi pour vérifier que tout était encore cohérent. Cohérent ? Non, enfin, organisé correctement. Que tu ne te retrouves pas devant mon visage et me dises, ton visage a fondu, ta peau fait des bulles comme du plastique sur ta boîte crânienne. Parce qu'en gros, quelque chose n'irait pas, parce que je ressemblerais effectivement à ces gueules cassées qui reviennent des guerres avec des trous dans leur face. Je sentais mon visage brûlé, en train de se disloquer par l'action d'un acide. Mais non. La chaleur était confinée à l'intérieur, sous ma peau, entre ma peau et l'os de mon crâne. Un flux de chaleur inouïe parcourait, comme de tout petits ruisseaux d'huile bouillante, entre ma peau et l'os de mon crâne, à plusieurs centaines de degrés, comme j'imagine le niveau de chaleur d'une planète à l'approche de son noyau. Je sentais que mon crâne noircissait doucement, cramait silencieusement, et je savais, à ce moment-là, que sous l'effet de cette chaleur, la calcination allait bientôt s'attaquer à ma cervelle, c'est-à-dire j'avais le visage, les joues rouges, enfin voilà, j'avais rougi, quoi. Et tu m'as dit... « Hey, salut, Louis He, c'est ça ?» Tu m'as dit ça, et c'était mon prénom, effectivement. Et tu l'avais prononcé correctement. Pas « e » ou « e » comme disent ceux qui ne me connaissent pas, mais « he » à l'anglaise, avec le « h » et les deux « e » qui font « he ». Tu m'as appelé Louis He, comme ça, normalement, comme quelqu'un qui me connaît. Comme quelqu'un qui me connaît et qui m'adresse la parole. Et moi, putain, qu'est-ce que je pouvais faire devant ça? Qu'est-ce qui me restait à moi qui ne savais rien, ni ton prénom, ni ton nom, encore moins comment te prononcer, moi qui d'ailleurs ne savais aucun mot, ne savais pas la différence entre les voyelles et les consonnes, et pour seul langage, n'avais qu'un nombre restreint de petits cris, de petits sons que je faisais pour communiquer, mais rien d'articulé. Ainsi, pour demander mon chemin dans la rue, pour commander à manger, je grognais, je soufflais, je claquais des dents de la langue, enfin selon l'humeur. Et toi, tu étais là, devant moi, avec mon prénom que tu me disais, et me disant à moi, qui étais analphabète et muet, « Bonjour », avec ta bouche de malade mentale. Et alors, j'ai su parler. J'ai su compter. je me suis souvenu de mon enfance. J'ai su faire la différence entre la nuit et le jour, entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. J'ai lâché mon sac de course. Je l'ai repris sans rien dire. Le centre commercial où nous étions a fermé ses portes exceptionnellement. Les clients ont été évacués, les rideaux de fer se sont fermés, mais silencieusement pour ne pas nous déranger. Les lumières se sont éteintes, les lumières se sont rallumées. Ni moi ni personne ne savait exactement comment réagir, comment se positionner. Il n'y avait pas d'instruction au PC sécurité pour ce genre de situation. Personne ne savait s'il fallait déclencher quelque chose, une alarme, quelque chose pour signaler que tu m'avais adressé la parole, même appeler les autorités, la préfecture en tout cas. Les caméras de surveillance se sont éteintes par pudeur, ou par peur, ou par pudeur. J'ai cru être tombé au sol et puis j'ai cru me relever. J'ai essayé de te dire « tu t'appelles comment ?» et à la place, j'ai parlé des courses que je venais de faire. J'avais acheté des chaussettes de sport. J'avais acheté un lot de chaussettes de sport, de slips, et je t'ai dit que je ne me souviens pas t'avoir vu avant. Tu me dis quelque chose. Évidemment, je sais qu'on s'est vu, mais je ne me souviens plus chez qui. Chez Richard. À la fête, chez Richard, en novembre. C'est ça. Ah, tu t'appelles comment ? John. Ah oui, John, ça va ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Et comment est-ce que tu sais que je pleure depuis des années ? Comment est-ce que tu sais que je pense à toi tous les jours en pleurant ? Comment est-ce que tu sais que je te cherche dans la rue et que je me prends les pieds dans les trottoirs des fois parce que j'ai cru t'apercevoir partant ou tenant la main de quelqu'un d'autre ? Comment est-ce que tu sais que j'insulte mes amis qui ne te connaissent pas ? Que je ne réponds pas à mon téléphone parce que ce n'est pas toi qui appelles ? Et que si je décroche, c'est pour proférer des insultes que je crache comme fils de chien, connard, pauvre merde, parce que je suis en colère de ne pas entendre ta voix, mais celle de cette connasse, de ce fils de chien, de cette pauvre merde qui ne sont pas toi, et parce que je t'en veux pour ça, mais je peux pas te le dire parce que j'ai pas ton numéro de téléphone et que tu n'as pas le mien. Alors, échangeons nos numéros, qu'est-ce que tu en dis ? Prends mon numéro et écris-moi, comme ça j'aurai le tien. D'accord ? Ok. John, ah oui, voilà. Et qu'est-ce que tu t'es acheté ? Enfin, non, ou plutôt, qu'est-ce que tu as prévu d'acheter ? Et aussi, qu'est-ce que je dois faire, moi, maintenant, puisque tu es là, et que tu es arrivé, et que je n'ai plus besoin d'improviser des journées entières à me donner des airs d'homme ? Qu'est-ce que je dois faire, puisque... Oh, putain ! Et voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai revu ton visage, et de près senti l'odeur, et la forme de ton corps, le pantalon, les épaules. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment que mon corps était à toi, que je voulais me jeter dans tes bras ? Mais bon, évidemment, il faut rester mesuré dans ce genre de... ne pas s'emballer. Garder son calme. Tenir. Alors, John, voilà. Je n'ai pas bougé pour ne pas faire de gestes brusques, parce que j'aurais très bien pu te faire fuir, disparaître en un instant comme un animal surpris dans la forêt profonde. Et surtout parce que le moindre mouvement, alors, aurait été ridicule ou anachronique et vulgaire et grossier et naïf. Le moindre mouvement de main, hochement de tête, rond d'épaule, tapotement du pied, alors, aurait été immédiatement presque pornographique ou interprété comme tel. Et nous aurions eu raison. Je n'aurais pas pu bouger si ce n'était pour bouger vers toi, me jeter sur toi, te prendre la bouche. Et le reste, j'avais l'impression que cela faisait déjà plusieurs heures que tu étais devant moi avec mon prénom à la bouche, car j'étais moi-même déjà tout plein de crampes, car j'étais moi-même épuisé de porter depuis des heures devant toi mon corps à bout de bras qui n'en finissait pas de tomber. J'aurais voulu, j'en sais rien, te griffer, te cracher à la figure pour que tu partes, pour que je reprenne des forces. Juste quelques secondes, j'aurais voulu te chasser, quitte à te supplier immédiatement de revenir, m'excusant de t'avoir tout juste dit de partir, plutôt que de continuer à supporter que tu me regardes sans rien dire, sans pause, en attendant de moi. J'en sais rien, moi, que je fasse une blague, enfin que je te propose de t'accompagner dans tes courses ou de boire une bière, mais casse-toi, putain, casse-toi. Tu vois bien que je n'y arriverai pas et que je n'y arriverai jamais et que je n'ai pas la force, alors autant partir maintenant, autant tout arrêter. Je repars avec mes chaussettes, tu repars avec ton visage et tes épaules, et tu ne bouges pas. Et je ne trouve pas la force avec mes bras pour te chasser. Je n'ai rien tenté. Quand tu as commencé à évacuer le monde et le temps autour de nous, j'ai eu peur au début. Je t'ai dit, laisse quand même un peu d'air. Laisse-moi juste un peu d'air que je respire autrement que par toi. Et je sais à présent que je n'ai pas besoin de ça, mais par respect pour moi, tu m'as laissé un peu d'air pour respirer, ce qui est hyper sympa de ta part. ce qui est hyper respectueux. Et tu t'es montré hyper respectueux quand tu m'as pris dans tes bras avec ton corps et pourtant tu es fort. Et tu aurais pu me faire un peu mal, être un peu maladroit ou brusque et je n'aurais pas eu grand-chose à redire. Et me faire l'amour avec la force brutale des gens qui me baisent et ne respectent rien. Mais non, tu m'as fait l'amour en m'embrassant sur la bouche, en me regardant dans les yeux, en regardant mon visage. Et j'aurais très bien compris que tu préfères regarder ailleurs. Tout sauf mon visage bizarre et gênant, et pas moche, mais désagréable. Et j'aurais pris le peu de plaisir que tu m'aurais octroyé. Même si tu n'étais pas généreux, j'aurais tout pris. Exactement ce que tu avais à me donner, et ce que tu avais à me donner aurait été ma nouvelle mesure. Cela aurait été suffisant que tu me regardes, me fasse l'amour quelquefois, me raconte un moment ou deux de ta vie, partage un repas et quelques verres de bière ou de vin et disparaisse. Il m'aurait suffi que tu me serres quelquefois, m'essayes et m'abandonnes là où tu m'avais trouvé. Je ne t'aurais pas crié de revenir. Je n'aurais pleuré. Aucune larme aurait été d'une dignité d'ancien régime, abruti et ivre, et je t'aurais oublié et tout le monde avec immédiatement après ton départ quand, m'ayant fait l'amour en me regardant, tu serais parti comme ça en me disant « Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour toi. » Et je me serais jeté dans le vide le plus vite, par la première fenêtre pour m'écraser sur le sol avec la hâte et l'orgueil et la face joyeuse de celui qui chante encore ton prénom en mourant, mais il a fallu que tu restes, putain. Et je ne veux même plus mourir. Tu comprends ? Je n'ai plus aucune envie de mourir. Et il a fallu que tu rendes autour de moi, le monde soudain lisible, je veux dire vivant, je veux dire désirable, que tu prennes la place du monde, à mes yeux, mettre des morceaux de ton corps partout, que je lèche, que je touche, que je me frotte au monde entier comme si ta peau recouvrait la ville entière, comme si remontant, comme ta peau, avec ma langue, le trottoir gris, rugueux, j'arriverai où je veux pour toujours, dorénavant, en venir, je ne sais pas comment être plus clair. Comme si chaque objet du monde contenait un morceau de ton corps, un poil, un bout d'aorte, un ongle, n'importe quoi, un morceau de foie, un peu de bile, une côte sur laquelle marche le pigeon des rues, un quart de poumon dans telle poubelle publique et tes plus infimes particules disséminées partout, comme si l'air, ne portant que tes microbes et tes maladies et tes germes, ne m'étaient adressés qu'à moi et respirable que par moi qui accapare et dévore et l'air et l'atmosphère comme si mes poumons jaloux pouvaient asphyxier le monde entier et garder pour eux tout l'air que tu as respiré. Et je ne te parle pas des corps des gens. Oh là là. Je ne devrais pas te parler des corps des gens. Et je ne parle pas des fois où j'ai pris n'importe quel corps que je croise pour le tien pourvu qu'on me frôle ou qu'on me touche la main ou qu'on me touche l'épaule à un moment où j'aurai ton image dans la tête, c'est-à-dire tout le temps, je ne sais pas comment être plus clair. Et les incidents que j'ai failli, enfin les erreurs, les quasi-viols et les agressions sexuelles dont je me suis rendu coupable par la pensée à force de te voir partout, de me jeter sur toi partout, de te désirer partout, de prendre le monde entier pour ton corps et de n'être jamais, 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 jamais fatigué, rassasié, repu, rien, jamais assez plein, jamais l'épuisement, jamais autre chose que mon corps qui ferme enfin sa gueule et profite. Et je te l'ai dit ça que je suis rentré chez moi après t'avoir rencontré dans le centre commercial. Après qu'il a fermé ses portes, quand les rideaux de fer se sont relevés et qu'ils se sont refermés. Ensuite, non plus pour nous, mais seulement, voilà, parce que l'heure était venue de fermer. Bon, alors je suis rentré. J'ai brûlé mes affaires dans une benne à ordures. J'ai rendu les clés de mon appartement. J'ai envoyé de lettres d'adieu à ma famille, d'insultes à mes amis afin qu'ils me haïssent, qu'ils ne me cherchent jamais, qu'ils ne nous dérangent jamais. Tu le sais, ça, je te l'ai dit, que je n'ai plus rien. Que j'ai vidé toute ma mémoire pour t'y laisser la place. Tu le sais aussi que la première fois que tu m'as fait l'amour, 2 heures après, comme un fou furieux, j'ai carrément joui tout seul sur un trottoir. Me suis retrouvé au sol avec un cri dans ma bouche obscène. Quelqu'un qui n'y connaîtrait rien en accouchement eût cru que j'allais accoucher ou que je faisais une crise d'épilepsie, enfin, ou que j'avais perdu les os, mais ça n'était pas ça. Comme un tremblement de terre fait des répliques, rien qu'en te rappelant à moi, tu me refoutais par terre, sur le trottoir et sans gêne, comme si la ville était notre immense lit allongé et en un instant nu avec une obscénité d'avant-garde que personne n'a même osé filmer, que personne n'a même osé mettre en ligne. J'étais là comme un animal d'égout, crade à dire « John, oh oui, 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 comme ça !» Et quand la rue dégoûtée s'est vidée, à cause des gémissements, j'ai joui, et 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 je me suis relevé, ce que je ne pensais plus jamais pouvoir faire. Je ne dis pas que je vais bien, c'est... Je ne dis pas du tout que ça va. Hein. Et le bonheur ni le plaisir n'ont rien à voir là-dedans, d'accord ? Ok. John, pardon. Voilà. John. Je sais pas pourquoi j'oublie toujours ton prénom. Je l'avais noté sur un morceau de papier que j'ai perdu et depuis 8 mois, je n'arrive pas à m'en souvenir complètement. Toujours quand je t'appelle, il y a un petit trou de mémoire. Assez minuscule, je veux dire. Rien que tu puisses remarquer, rien qu'il puisse te vexer, et ça me revient toujours suffisamment vite, mais il y a toujours ce vide qu'on ressent aussi quand on pose pour la dernière fois le pied sur terre avant d'en sauter pour s'envoler. Alors, je ne dis pas que je sais ce que ça fait, s'envoler, car je ne sais pas moi-même voler, donc je n'en ai jamais fait l'expérience. Mais je sais le sentiment qu'on a quand on saute et qu'on ne vole pas. Et qu'on retombe, n'attrapant rien de l'arbre, n'approchant rien du ciel, n'atteignant aucun toit de l'autre immeuble, quand l'élan n'était pas suffisant, ni la décision, et qu'alors il n'y a que le vide et le corps qui tombe au milieu. Alors évidemment, on saute rarement de très haut, et je ne suis pas vraiment du genre à sauter. Et ça n'est jamais vraiment très grave, paraît-il, de tomber, mais quand je me lance pour t'appeler, putain, je suis pris de panique, et j'ai peur qu'à la place de ton prénom, il n'y ait qu'une pierre de ma bouche qui tombe sur mon gros orteil. Quand j'oublie ton prénom, mon corps tremble et des angoisses, comme des bêtes grotesques quittant leur tunnel, sortent de mon corps par mes pores à grosses gouttes. Je suis sans moyen, je n'ai pas de lieu ni de meubles, je ne connais aucun endroit, je ne connais pas de gens, je n'ai aucune mémoire. Putain, comment tu t'appelles ? Je n'aime pas manger, si ce n'est m'étouffer avec de la terre dans les jardins publics. Et encore, je n'aime pas les jardins publics, je n'aime pas les fontaines, je bois de l'eau, comme on boit du vin jusqu'au vomi, jusqu'à l'évanouissement. Putain, comment tu t'appelles, là ? Et encore, la plupart du temps, je bois du vin. Je suis triste, comme une rue, triste et sans intérêt, à part au pire des cas, quand il faut y passer vaguement, putain, pour se rendre d'une rue à une autre. Mes journées sont molles, il pleut sur moi, je vole dans les magasins, je bouscule des gens qui vendent des miniatures dans des villes géantes, plongées dans des brumes de cendres humides, et moi, j'ignore comment tu t'appelles. Et j'ignore. La raison pour laquelle les éclairages publics sont éteints quand je passe en dessous, mais la vie, c'est à peu près ça, d'accord ? Des voitures qui se poussent pour laisser passer les ambulances et qui foncent sur moi, les voitures foncent sur les gens, les bouches sont à sécher, ne savent plus articuler ni les alertes ni les plaintes, et il ne restera bientôt que les pierres pour être malheureuse comme les pierres. Puis voici l'image de celui qui se noie et qui refait surface. Mes pieds, touchant le fond, frappent l'élan pour remonter vers la surface. Mes poumons jumeaux sont au bord de l'explosion, et voici le bord, voici l'air respirable. John ! Voilà, c'est ça, John. Puis voici l'image de celui qui fut pris d'un vertige. Mes pieds trouvant un appui là où mes yeux ne voyaient que du vide, mon corps qui se désagrégeait soudain se rattache à lui-même et se tient debout. Et John me revient, John, enfin John, 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 comme si de rien n'était. Et comme si, en oubliant presque ton prénom, je ne venais pas tout juste, je ne sais pas, et peut-être que j'exagère, mais de frôler une sorte de néant intégrale, la folie, l'obscurité infernale, la pire, les yeux colmatés par la suie, les orbes carbonisés noirs. John, 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 John ! Comme si je ne venais pas d'éviter, d'extrême justesse, la folie. Le cri sort de ma bouche où s'avance une épée qui le rebrousse. John, 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 John ! D'éviter le délire. Les larmes coulent comme du plomb sur mes joues de pierre froide et je ris comme une statue avec des dents de granit carrié. John, 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 John ! Le manque s'élance et s'arrache de mon corps vers le tien. Le manque qui était là, tapis derrière mon foie, brusquement et emportant mes entrailles, sort de mon corps de rage en disant « Merde, mais y en a marre, putain ! John, 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 John !» John, John, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est quand même pas la première personne à avoir un putain de prénom. On va pas passer 10 heures là-dessus, peut-être. Mais quand je dis ton prénom, tu vois, c'est comme si je n'avais plus de corps. Et ça, le manque, il s'en balaye le cou. Il se jette sur toi intégralement et il t'appelle comme tu t'appelles. Et tant pis si je suis en lambeaux. Et tant pis si de moi il ne reste rien que quelques morceaux de viande et une vague odeur. Et tant pis puisque de toute évidence je ne serai plus un homme encore longtemps. Et tant pis puisque je prendrai bientôt l'apparence et la forme d'un chien ou de je ne sais quel animal docile qui marche à quatre pattes en attendant qu'on le nourrisse. Et tant mieux aussi parce que je ne tiens pas beaucoup à ce corps-là depuis que j'ai vu le tien, si je pouvais. Je me changerai en arbre afin qu'on m'abatte, qu'on taille mon bois et qu'on en fasse une chaise de facture assez simple et sans prétention pour que tu puisses, si tu veux, t'y asseoir. Puis, après que l'alerte a été levée, le centre commercial a rouvert ses portes, les commerçants ont repris leurs encaissements, les enseignes en couleur et les écrans publicitaires ont rallumé les lumières qui s'agitent pour qu'on les regarde et nous sommes sortis dans la rue où je marchais à côté de toi en évitant juste de marcher sur ton ombre. Tu as dit « Je connais un endroit ». Ça ne m'étonnait pas, c'était bien ton genre. Moi, je t'y suivais tant bien que mal en marchant, comme marchent à bout de pied d'autres sortes de croyances sur des cendres. Dis-moi, sincèrement, dis. Est-ce qu'il t'arrive de rire en pensant à moi? Est-ce qu'il t'arrive de te dire « Demain, je n'en voudrai plus » ou « La semaine prochaine, je n'en voudrai plus » ou « Dans un mois » et de savoir pourquoi ? De regretter ce moment du centre commercial où tu as dit « Hey, salut, Louis He, c'est ça ? » De regretter d'être souvenu de moi, car en te souvenant aussi facilement, tu le sais, ça, que je ne pouvais pas me retenir de penser que j'étais déjà là dans ta mémoire, que tu avais retenu mon image, ma voix, mon corps et mon nom quelque part dans tes plis, que j'étais déjà rangé dans ton cerveau entre d'autres corps plus importants que le mien, que tu m'avais retenu avec ton adresse actuelle, ta liste de courses et l'odeur de ta ville natale. Que j'étais, sans le savoir, depuis quelque temps blotti contre toi dans ton sommeil. Que je faisais peut-être du sport avec toi. Qu'immanquablement tu m'emmenais avec toi sous ta douche. Et que, comme un nouveau livre dans une bibliothèque pleine, tu m'avais forcé à entrer, faisant chuter de ta mémoire quelques souvenirs importants qui disparaissaient, laissant ainsi la place pour que mon prénom, avec sa bonne prononciation, y tienne. Alors que moi, c'est incroyable, mais quand nous nous sommes rencontrés, je ne t'ai pas reconnu. J'ai été ce mec-là, lui qui dans les livres ne reconnaît pas. J'ai été l'aveuglé, le déconcentré, lui qui dit qui es-tu à celui qui est tout. Et ton visage a répondu à sa manière à la question que mon regard ignorant lui posait. En s'inscrivant dans ma rétine avec une telle force que la forme de mes yeux, de t'avoir vu, en fut changée. Tu as dit « Je connais un endroit, Ça ne m'étonnait pas, c'était bien ton genre. Et moi, je te suivais en admirant ton crâne avec mes yeux nouveaux. Tu as dit, c'est par ici. Prenons par là, ça ira plus vite. Il y avait une boucherie avant ici. Peut-être avons-nous tourné trop tôt. Peut-être arrivons-nous trop tard. Peut-être est-ce dans une autre ville. J'ai un peu soif. Puis, quand nous nous sommes retrouvés finalement devant les portes du centre commercial, que nous avions pourtant laissé derrière nous, cela ne nous a pas surpris que la ville se soit ainsi retournée sur elle-même, que les sorties soient devenues des entrées, et que croyant marcher tout droit, nous soyons finalement revenus en arrière, comme si les heures avaient changé de sens et qu'elles voulaient pour s'amuser nous revoir tous les deux abrutis l'un par l'autre dans la lumière électrique. Nous sommes retournés au même endroit, nous nous sommes replacés comme deux acteurs qui reprennent une scène pour la refaire, mais en un peu mieux. Le vigile qui pensait bien faire nous dit qu'on va fermer dans 15 minutes, ce qui est complètement con, puisque précisément le temps n'existe plus, mais il avait sans doute pas été mis au courant. Puis d'ailleurs, on s'en fout finalement, puisque « Hey, salut, Louis, hi, c'est ça, une nouvelle fois. Et moi, John, ah oui, voilà, John, c'est ça. » Ce n'est pas vrai que le temps passe, que tout est transitoire. C'est un truc qu'on raconte pour qu'on ait peur de mourir. Non seulement on peut revivre le même instant à peu près autant de fois qu'on veut, et à l'identique en faisant un petit effort, mais moi par ailleurs, je ne mourrai même pas. C'est dire à quel point le temps n'est pas du tout ce qu'on raconte. Moi, je ne mourrai pas, je resterai là quand tu seras donc mort et enterré. Je me tiendrai un peu à l'écart comme quelqu'un de timide. En faisant un petit son, à peine audible d'abord, comme un petit rappel qu'on entend et qu'on oublie. Regardant les immeubles s'ériger, s'effriter et tomber, je regarderai sans rien dire le temps aller droit devant, en restant un peu sur le côté, sans gêne de ne pas trop me soucier de la fin du monde et de la peine des gens, sans gêne de ne pas donner de coups de main pour dégager les gravats qui tomberont des nuages crevés par surprise par des averses de pierre, je passerai le restant de tous les jours à geindre, jusqu'à ce que mes gémissements se confondent à tous les bruits de voitures, de voix, de bêtes, afin que, d'une certaine manière, mon deuil infuse dans tout le monde sonore et qu'absolument tout au monde semble se plaindre, jusqu'à sa dernière heure, de t'avoir connu et de t'avoir perdu. Quand je te disais que le bonheur et le plaisir n'avaient rien à voir là-dedans, John. Ah oui, voilà, c'est ça, John. Ce n'est pas vrai que... Ce n'est pas vrai que le temps passe. Que tout est transitoire. C'est un truc qu'on raconte pour qu'on ait peur de mourir. Non seulement on peut revivre le même instant à peu près autant de fois qu'on veut en faisant un petit instant... un petit effort, pardon. Petit effort, mais moi par ailleurs je ne mourrai pas. C'est dire à quel point ce n'est pas vrai que le temps passe, que tout est transitoire. C'est un truc qu'on raconte pour qu'on ait peur de mourir. Non seulement on peut revivre le même instant à peu près autant de fois qu'on veut et à l'identique en faisant un petit effort, mais moi par ailleurs je ne mourrai pas. C'est dire à quel point ce n'est pas vrai que le temps passe et c'est ainsi que John, ah oui voilà, John est. Ça va, qu'est-ce que tu fais ici et comment est-ce que tu sais que je pleure depuis des années? Comment est-ce que... C'est pas ça. Pardon. Comment est-ce que tu sais que... Comment est-ce que tu sais que je pense à toi tous les jours en pleurant? Comment est-ce que tu sais que j'insulte, que je te cherche dans la rue et que je me prends les pieds dans les trottoirs des fois parce que j'ai cru Non, c'est pas ça. Parce que j'ai cru t'apercevoir partant ou tenant la main de quelqu'un d'autre. Comment est-ce que tu sais que j'insulte mes amis qui ne te connaissent pas, que je ne réponds pas à mon téléphone parce que ce n'est pas toi qui appelles et que si je décroche, c'est pour proférer des insultes, que je crache comme fils de chien, connard, pauvre merde, putain, mais il est où ce papier, là? C'est pas du tout ça. Ah, pardon. Tu vois, ça aurait été pratique, en fait, le papier, parce que là, je suis perdu. J'ai repris au tout début, en fait. C'est... En fait, le truc, c'est que j'ai des espèces de... j'ai des fourmis dans les jambes et ça me... Je me suis déconcentré. Enfin, pardon. J'ai encore soif. Ce que je voudrais, c'est te voir un visage laid, connaître un angle ou te voir méchant, te voir, quand tu es seul, être une merde, comme tout un chacun, et le dissimuler. Te voir être cruel avec un animal, enfoncer tes clés dans une cuisse gratuitement dans la rue, cracher dans la bouche d'un gosse qui rit, frapper dans le gobelet vide d'un clochard. Je voudrais apprendre que tu as fait de la prison. Même un jour, même par erreur, qu'on t'a confondu avec un meurtrier, même une ressemblance suffirait, une proximité avec ce qu'il y a de sale, avec la peur, au moins la peur pour me donner l'impression qu'il y a quelque chose de commun entre mon visage et le tien. Je te regarde et on dirait que personne ne t'a jamais insulté. Je te regarde et je pense, on dirait que personne ne l'a jamais frappé par derrière. Par surprise. Donner deux coups derrière les genoux pour qu'ils fléchissent. Deux claques derrière la tête en passant, claquer l'épaule contre ton épaule, en passant, plaquer contre un mur, le bras à l'horizontale contre ton cou, le front contre ton front. On dirait qu'on t'a pas du tout frappé du poing serré dans ta face, que personne n'est venu la nuit te virer de la nuit par effraction. On dirait que tes muscles ont jamais serré des dents quand on t'approche, que tu n'as jamais regardé le sol par terre de ta vie. On dirait qu'on t'a toujours appelé par ton prénom à toi, prononcé correctement et non par des surnoms qu'on articule avec les dents. Ça se voit qu'on t'a jamais regardé, et dit fils de pute, pédé, pauvre merde, enculé, colasse ou salope, sale race, enflure, raclure, nique ta mère, trou de bordel, je te regarde, et oh putain. C'est hyper beau un corps que personne n'a frappé. Ça se tient hyper droit. Ça bouge avec légèreté. Ça respire correctement, ça cherche jamais à montrer ses muscles, ça se tient. Comme s'il n'y avait rien à craindre à se tenir debout. Et puis ça va, t'as l'air parfaitement accompli. Je veux dire, t'as l'air parfaitement développé. Donc c'était des putains de conneries aussi qu'il fallait s'endurcir. Que les coups sont formateurs, qu'il faut se faire le cuir, que tout ça rend plus fort, qu'il faut être plus résistant, qu'il faut apprendre à bomber le torse, à soutenir les regards, que les coups pleuvent sur les corps parce qu'ils tremblent. Je te regarde et voilà. J'en étais sûr que frapper un corps, ça l'abîme. J'en étais sûr qu'on ne devenait pas du tout plus fort à force de coups, qu'on ne s'endurcissait pas et que tous les coups sont pris pour rien. C'est pour ça qu'en te voyant, je me dis, tu ne me ressembles pas. Et non pas à la marge, la couleur des yeux, la forme de la bouche, les circonvolutions des oreilles, la nature et la couleur des cheveux. Tu ne me ressembles pas, mais de façon, je veux dire, carrément radicale. Je veux dire, depuis le départ, ta lignée, ton espèce n'est pas la mienne. C'est inscrit sur ton visage que nous n'avons aucun ancêtre en commun, que ton Dieu à toi n'est pas mort comme le mien et qu'il est toujours bien vivant, celui qui est à ton image. Et je voudrais croire en lui, car ton Dieu est le bon et je l'adore comme ton corps et ta bouche et ton sexe et tes fesses et ton nombril et tes mains qui saisissent et tes muscles et ta graisse et ton sexe. Et je voudrais me jeter sur toi à une vitesse suffisante que mes atomes passent entre tes atomes et que mon corps à moi se crible dans le tien. Mais je suis épuisé, je n'ai plus de force. J'ai vieilli de près d'un siècle depuis que je suis arrivé ici. Tu comprends, donc ça n'est pas possible. Je me sens encore moins grand que quand j'étais tout petit. Et je n'exagère pas. Ou alors un tout petit peu. Et comment ont-ils fait les autres qui t'ont vu? Tu as bien marché dans des rues, tu as connu d'autres gens. T'as travaillé, t'as fait des courses, pris des trains, tu as fait des études, tu as connu tes parents. Comment faisaient-ils les autres pour te regarder sans immédiatement perdre 10 ans d'espérance de vie? Comment tes parents ont-ils pu le regarder, ce corps, sans être immédiatement coupable d'infanticide ou pire, d'anthropophagie, pour avoir voulu connaître le goût de ta chair cuite? Comment n'ont-ils pas eu, par pitié du monde où ils t'ont enfanté, le réflexe de te cacher derrière une porte blindée qu'on ouvre qu'au prix d'une mort certaine? Sont-ils juste tous morts sur le coup, les autres qui t'ont regardé? On te l'a déjà dit tout ça, les dieux savent qu'on les adore, ça les fait marrer. Et toi, est-ce qu'il t'arrive de rire en pensant à moi? Est-ce qu'il t'arrive de te dire demain je n'en voudrai plus, ou la semaine prochaine je n'en voudrai plus, ou dans un mois, puis je veux pas le savoir, de toute façon je suis fatigué, je suis bientôt mort. J'avais noté quelques mots sur une feuille de papier pour éviter de me perdre et de dire plus que ce que je voudrais. Je trouve plus la feuille. Je n'arrête pas de me perdre. Je l'avais mis dans ma poche, tu vois, mais apparemment non, c'est con, hein. Ça valait bien la peine de préparer quelque chose. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Mais qu'est-ce que tout ça peut bien te faire? Et combien de fois faudra-t-il que le vent souffle, que la vague s'écrase, que la pluie s'averse sur l'immense falaise pour qu'elle s'érode, s'affaisse et daigne descendre le regard vers le grain de sable minuscule tout en bas sur la plage qui dit « Regarde-moi, regarde-moi moi et non pas mon corps qui est un mensonge, qui est une prétention, une projection de mon orgueil, une invention pondue par mon cerveau comme le membre fantôme n'existe que dans la tête de l'amputé, non. Mon vrai corps, celui qui te parle à présent, est à tes pieds, juste en dessous de ta chaussure. Sa voix est minuscule, tu ne l'entends pas, je ne fais que la relayer et encore je parle trop fort. Celui qui te parle vraiment a moins de mots que moi, ne sait pas faire autant de phrases, n'a pas de souffle ni même de poumon pour y mettre du souffle, et je le trahis en traduisant son chant avec tous mes mots lourds, et je le trahis en faisant endurer sa modeste et petite phrase, et il me déteste à présent de t'avoir accaparé au point que tu ne puisses bientôt plus entendre que des sons indiscernables, un bourdonnement comme après un tonnerre voisin qui tonne sans prévenir dans l'oreille, et même avant l'éclair, 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 tonne dans la nuit la plus noire et assourdit l'oreille qu'il devait précisément ouvrir. Celui qui te parle n'a aucun poids, aucune histoire, aucune opinion, aucune température corporelle, aucun logement, aucun compte bancaire, aucun réflexe, aucune tradition familiale, aucun plat préféré, aucune prétention au titre d'humain, pourrait tout aussi bien être un arbre, comme je l'ai déjà dit, ou bien autre chose, n'a aucune suite dans les idées, aucune autre vie cachée, aucune inspiration, aucun projet, aucun compte de formation professionnelle, aucune revendication, et puis il est si petit qu'il ne s'attendait jamais, 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 jamais qu'on le découvre. Il n'a aucune religion, aucun droit de vote, aucun système politique, aucun système digestif, aucune proportion, aucune consistance, aucune couleur, aucune forme, n'a aucun commencement, il n'a surtout aucune fin, aucune concurrence dans son ordre de choses humiliées. Il ne dit pas « je » pour parler, d'ailleurs il ne parle pas, il chante, il ne vit que pour, par et à travers toi, comme ta salive, ton foutre, ta morve et tes larmes, ta salive, ton foutre, ta morve et tes larmes sont sa seule nourriture, et encore tu la femme, il en veut plus, 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 il n'en peut plus. S'il avait des genoux, il serait en lambeaux, à force d'être à genoux, à force de chanter à genoux, à force de t'admirer, à force de parler de toi à tout ce qu'il croise d'infime et de vivant, à force de se jeter sur le sol en pleurant de joie car tu as marché sur le sol où il se jette, à force de se retenir de chanter quand tu tends l'oreille, à force de coller sa bouche sur le sol pour y planquer sa parole, coller sa bouche sur la terre pour y planquer le papier sur lequel il avait écrit pour te le dire qu'il t'aime. Je sais pas comment être plus clair, je t'aime. Je t'aime, 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 je t'aime.
One by one, the guests arrive. The guests are coming through. The open-hearted many, the broken-hearted few.
La déclaration d'amour de Louis He à John Howe. De Nicolas Barry. Texte écrit et interprété par Nicolas Barry. Prise de son, montage et mixage, Pierre-Henri Dauphard-Guérille. Assistante à la réalisation, Claire Chesneau. Réalisation, Laure Goroff.
No, go stumbling through that house in lonely secrecy. Saying, do review your yourself? Why hast thou forsaken me? No one knows where the night is going. No one knows why the wine's flowing. Love, I need you, I need you, I need you, I need you, oh. I need you now. Those who dance begin to dance, and those who weep begin. And welcome, welcome cries a voice, let all my guests come in. And no one knows where the night is going, no one knows why the wine is flowing. Love, I need you, I need you, I need you, I need you, oh. I need you now. And all at once the torches flare, the inner door flies open, and one by one they enter there. Passion. No one knows where the night is going. No one knows why the wine is flowing. Ooh, love, I need you, I need you, I need you, I need you, oh. I need you. Dissolve, and one by one the guests are cast beyond the garden wall. No one knows where the night is going, no one knows why the wine is flowing. Those who dance begin to dance, then those who weep begin, and those who earnestly lost are lost and lost again. And no one knows where the night is going, no one knows why the wine's flowing. I need you, I need you, I need you, I need you, oh. I need you now. One by one, the guests arrive, and the guests are coming through. The broken hearted many, the open hearted few. No one knows where the night I